l'attention des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes.
Le club.
Quand on prononce le mot culture, on pense à la littérature, à la sculpture, à la peinture, on oublie le mot science. Pour moi, la culture est un tout.
Le club de la tête au carré. Mathieu Vidard.
Le magazine scientifique de France Inter.
Bonjour à tous et merci donc de nous rejoindre dans ce club des têtes au carré. Au menu cet après-midi, du grand froid et des aurores boréales. Deux photographes, un scientifique sont mes invités pour nous faire partager leurs connaissances et leurs voyages. Et je vous les présente sans plus tarder. Jean Lilenstein est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. C'est un laboratoire CNRS INSU. Et alors on va parler avec vous de ces aurores boréales, ce spectacle lumineux absolument fascinant qui est visible en particulier autour du cercle polaire, une histoire qui, on le verra, hein, commence très loin de la Terre. Vous nous expliquerez comment se forment ces aurores polaires et au-delà de ce spectacle magnifique, quelles peuvent être les conséquences des orages magnétiques qui sont à l'origine, on le verra, des aurores boréales. Et puis vous nous parlerez d'un instrument que vous avez mis au point. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs cet instrument ?
La Planetarella.
Ouais. Et vous fabriquez des aurores boréales voilà, avec cet instrument ?
C'est une expérience pour le grand public, pour leur montrer des aurores boréales sous une cloche en verre.
Eh bien, vous nous expliquerez ça tout à l'heure. À vos côtés se trouve Olivier Grunewald. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déjà venu dans la tête au carré, Olivier Grunewald, il y a quelques mois pour nous parler de votre passion des volcans. Là, on va parler de votre autre passion avec la météorologie du ciel et puis les aurores boréales que vous avez également photographiées de nombreuses fois. Vous nous direz comment les apprivoiser, quelle est la période propice pour en voir et s'il faut un matériel particulier pour les prendre en photo. Et puis Vincent Munier, bienvenue à vous.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes également photographe spécialiste de la nature et de l'environnement. Vous avez également beaucoup voyagé dans les régions du Grand Nord. On parlera avec vous de vos périples au Canada, dans le nord du Japon, en Russie, et puis de votre rencontre avec les aurores boréales, et puis également des conditions dans lesquelles vous vous êtes parfois retrouvé hein, pour prendre des clichés de bêtes sauvages. Et puis on évoquera vos photos autour d'un livre sur la Lorraine, puisque vous êtes originaire des Vosges, et vous publiez Au fil des songes aux éditions Cobalan avec votre père, Michel Munier, et avec des textes de Charles-Élie Couture. Et puis Antonio Fischetti, vous êtes avec nous comme tous les mercredis pour votre chronique de la science des sons. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous aussi, vous êtes parti chasser les aurores boréales, Antonio ?
Oui, alors je vous emmène dans une promenade sonore et scientifique au pôle Nord avec les phoques barbus, les craquements de la banquise et puis même les bruits des aurores polaires.
Donc ce sera dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire de ce club qui a été préparé par Anne-Cécile Perrin avec Chantal Le Montagnier et Lucie Sarfati. L'émission est réalisée par Violaine Ballet. Et bien sûr, vous nous rejoignez en direct avec vos messages sur le site de l'émission sur franceinter.com.
Revue de presse. La revue de presse 2S des sciences.
Et on commence avec un reportage à la centrale du Tricastin dans la vallée du Rhône à découvrir cette semaine dans Charlie Hebdo. Un reportage qui pointe du doigt un facteur dont pourrait bien dépendre la sûreté des centrales nucléaires françaises, le recours massif à la sous-traitance. Marie Chanel et Edith Besson ont rencontré ceux qui s'auto-désignent comme les invisibles du nucléaire, des salariés low cost qui tournent de centrale en centrale et assurent la maintenance des installations. Ces prestataires sont en effet embauchés au gré des arrêts de tranche pour changer de combustible et effectuer des opérations de maintenance. Ils n'ont pas le statut d'agent d'EDF, mais travaillent pour des sous-traitants qui eux-mêmes recourent à d'autres sociétés plus petites pour assurer le chantier. En bout de chaîne, les employés ont donc intérêt à proposer de travailler toujours plus vite et moins cher afin de remporter le marché. C'est l'effet mécanique de cette sous-traitance en cascade. Pourtant, comme le fait remarquer l'un de ces travailleurs invisibles, sûreté et rapidité, ça n'est pas toujours compatible. Or, de son côté, EDF en demande toujours plus. La durée des arrêts de tranche a par exemple été raccourci, passant de 2 mois à 3 semaines aujourd'hui. Un agent de maintenance interrogé par les journalistes de Charlie n'hésite pas à dénoncer les effets d'une politique curative plutôt que préventive. Alors dans quelle mesure faut-il s'inquiéter de ces défauts d'entretien et de prévention ? La conclusion d'Yvan Laurent, salarié dans l'une de ces entreprises sous-traitantes de GDF Suez, il résume bien la situation. « Je crois, dit-il, que ma centrale est plus sûre qu'en Ukraine ou au Japon, mais si on met ensemble la vétusté du matériel, la volonté d'EDF de réduire les coûts et des sous-traitants aux mauvaises conditions de travail qui peuvent finir par faire des conneries parce qu'ils sont stressés et fatigués, il commence à y avoir danger. » 2 pages à lire donc cette semaine dans Charlie Hebdo. On reste dans le sujet avec le canard enchaîné. On en apprend que Grenoble est l'une des seules villes à avoir un réacteur nucléaire intramuros. Il s'agit du réacteur de l'Institut Loé-Langevin qui sert à produire le flux de neutrons le plus intense du monde à des fins de recherche scientifique. On apprend qu'il fonctionne à l'uranium très enrichi, 10 kg, refroidi à l'eau lourde, et que sa puissance est de 58 mégawatts. Dans un article mis en ligne le 15 mars dernier, le site internet de l'Institut rappelle que ces 58 mégawatts représentent beaucoup moins que la puissance moyenne des centrales de production électrique, qui sont, elles, de l'ordre de 4500 mégawatts pour un réacteur produisant 1650 mégawatts d'électricité. Le canard enchaîné explique dans son article que l'Institut fait un point pédagogique régulièrement sur la sécurité du réacteur de l'Institut sous forme de questions-réponses. L'une de ces questions concerne la possibilité d'une rupture du barrage de Monténard. Cela pourrait-il causer un tsunami ? Réponse étonnante de l'Institut, oui et non, car le barrage étant situé à 45 km de Grenoble, il ne s'agirait pas d'une vague arrivant à très grande vitesse comme celle d'un tsunami. À partir du moment où elle arriverait au niveau de l'Institut, sa vitesse serait de 10 km/h et le niveau d'eau atteint serait de 4 mètres en 20 minutes. Des explications plus ou moins rassurantes qui se poursuivent sur les accidents potentiels pouvant survenir. On y apprend que 3 capteurs déclencheraient automatiquement l'arrêt du réacteur et que le refroidissement du cœur se ferait par simple convection naturelle. S'il y avait tout de même fusion du cœur et que l'Institut devait effectuer des lâchers de gaz radioactifs, le cercle de danger calculé par les experts ne dépasserait pas 500 mètres aux alentours. En tous les cas, si vous désirez en savoir plus sur le réacteur grenoblois, l'article du canard enchaîné et puis également le site internet de l'Institut Neutrons for Science qui est en lien sur la tête au carré. Et puis enfin, dans ces pages santé, l'Express indique que la recrudescence des cancers de la thyroïde en France serait due à leur meilleur dépistage et non pas au passage du nuage de Tchernobyl comme certains l'ont longtemps pensé. L'article rappelle qu'en cas d'accident nucléaire, la thyroïde capte l'iode nécessaire à la synthèse des hormones thyroïdiennes, notamment l'iode radioactif. Mais selon la Ligue contre le cancer, le danger n'existerait qu'à proximité du lieu de la catastrophe. De quoi rassurer ceux qui s'inquiètent du survol de l'Hexagone par le nuage radioactif venu du Japon.
La tête carrée sur France Inter.
Aurore boréale et grand froid donc dans ce club cet après-midi, juste après les bébés brunes.
La vie nous attend. Les trous noirs ne sont pas que des objets gravitationnels.
La tête.
Ça va pas, la tête.
La tête.
Eh, la tête au carré.
Sur France Inter.
Grand Nord et aurore boréale, voici donc le menu de notre club des têtes au carré cet après-midi avec mes invités, deux photographes nature, Olivier Grunewald et Vincent Munier, un planétologue Jean Lillelsten et Antonio Fischetti donc pour la chronique des sons de la science. Et vous nous rejoignez en direct avec vos courriels sur le site de l'émission franceinter.com. Jean Lillelsten, on va commencer avec vous pour aborder l'aspect scientifique de ces aurores polaires. Vous allez nous expliquer ce qui les caractérise, comment elles se forment. Alors ce sont des rubans lumineux, on peut les décrire d'abord pour se remettre en mémoire ce à quoi elles ressemblent.
Je pense que les photographes en parleront sûrement mieux que moi.
Alors, on a mis des photos d'ailleurs sur le site de La Tête au Carré d'Olivier Grunewald, donc on peut cliquer en même temps et regarder ce à quoi elles ressemblent. C'est comme des grands rubans, c'est ça, dans le ciel ?
Il en existe tout un tas de types. Les astronomes amateurs avaient commencé par les classifier. Quand on ne comprend pas, on commence par classifier, c'est utile.
Oui.
Pour nous, scientifiques, la classification n'a plus grande importance. Il y en a qui prennent tout le ciel, il y en a qui font des rubans, il y en a qui sont très dynamiques et qui bougent beaucoup, il y en a qui ont beaucoup de couleurs, d'autres pas. Tout ça pour nous n'a pas grande importance parce qu'on a relativement bien compris le mécanisme. Et le mécanisme, il démarre avec le Soleil. Le Soleil, c'est une étoile, c'est-à-dire un astre qui produit son énergie. Alors, on a l'habitude de la lumière, donc on sait bien qu'il nous envoie beaucoup de rayonnement. Il envoie pas seulement de la lumière visible, il envoie aussi de l'ultraviolet, ce qui nous fait bronzer. Il envoie des rayonnements X, ce qu'on utilise pour faire des radios du corps, etc. Il envoie tout ce rayonnement-là. Et puis en plus, cette énergie, elle est évacuée sous forme d'électricité. Cette électricité, elle a reçu le nom de vent solaire, c'est un joli nom. Cette électricité, elle est faite des électrons, ce qui court dans les fils électriques dont on a l'habitude, et puis d'une autre forme d'électricité dont on a un petit peu moins l'habitude, qu'on appelle des protons. En vérité, tout le monde connaît les protons, parce qu'un proton et un électron, ça fait de l'hydrogène. Et tout le monde sait ce qu'est de l'hydrogène. Donc cette électricité, elle voyage dans tout l'espace, en permanence. Des fois, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Alors on dit que le Soleil est actif, et des fois, il n'y en a pas beaucoup, et on dit que le Soleil est calme.
On était dans une période de panne, hein, plutôt, ces derniers temps.
Ah,
hein. On s'inquiétait
ans,
beaucoup, d'ailleurs. Hein.
Moi, je ne m'inquiétais pas beaucoup, je trouvais ça amusant.
C'était il ne se, pas
se passait pas grand-chose, ouais. En effet, ouais. Et en effet, le Soleil a été relativement calme pendant 3 ans et on ne sait pas bien pourquoi.
Ça y est, ça a repris ?
Ça a repris et là, ouais. Il y a des très très belles... Alors, on appelle ça des éruptions solaires. Donc, ça envoie des grosses bouffées de particules. Et moi, j'aime particulièrement bien quand ces grosses bouffées de particules rencontrent l'orbite de la Terre. Parce que cette électricité, elle est sensible au champ magnétique. Alors, il lui arrive tout un tas de choses un peu scabreuses. Ce n'est pas très important de rentrer dans le détail. Mais par exemple, ces particules se mettent à tourner autour de la Terre. Et en tournant autour de la Terre, elles créent un anneau qu'on appelle un anneau de courant, qui a été découvert par un scientifique américain qui s'appelle James Van Allen dans les années 59-60. Et tôt ou tard, dans cet anneau de courant et au cours des collisions, elle se retrouve capturée par le champ magnétique terrestre. Champ magnétique, c'est l'aimantation, hein, ça ne veut rien dire de plus. Mmh. Et là, elles sont conduites par l'aimantation de la Terre vers le nord et vers le sud. Elles rentrent dans l'atmosphère en s'approchant de la Terre et elles sont relativement rapides à ce moment-là, plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Elles rentrent dans l'atmosphère et elles heurtent l'atmosphère. Et l'atmosphère, ça fait comme dans les dessins animés, là. Quand on tape quelqu'un, burling, il se met à bouger dans tous les sens. Mm-hmm. Là, c'est la même chose. L'atmosphère se met à bouger dans tous les sens et elle revient à l'équilibre. Et en revenant à l'équilibre, elle rend l'énergie qu'elle a reçue à cause des collisions. Et elle la rend souvent sous forme de lumière. Et ça, c'est la création d'une aurore boréale.
Quelle est sa couleur en général ?
Alors ça dépend d'une part de ce qui a été heurté, donc de l'oxygène et de l'azote, la même chose que le gaz qu'on respire, il y a de l'oxygène un petit peu différent qu'on appelle atomique, c'est pas très important, mmh. Et ça dépend de la vitesse à laquelle est arrivé le vent solaire. Alors les couleurs les plus intenses, c'est le vert, qui est dû à de l'oxygène atomique autour de 110 km d'altitude, et le rouge, qui est dû à de l'oxygène atomique aussi, autour de 220 km d'altitude. Mais il existe d'autres couleurs, comme du mauve très 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 beau, qui est dû à de l'azote moléculaire et qu'on trouve seulement rarement quand le vent solaire est arrivé très très vite, après une grosse bouffée de particules parties du Soleil, et a heurté très très bas l'azote moléculaire vers 80 km d'altitude. Au-dessous, il n'y a plus vraiment de particules du vent solaire et il n'y a plus d'aurore boréale.
Excellent pédagogue, hein, Jean-Lillelsten. Bravo en tout cas pour ces explications. Vous êtes soulagé, vous pourrez venir en deuxième semaine et même rester avec nous. Olivier Grunewald et Vincent Munier, racontez-nous votre première rencontre avec des aurores. Alors, boréale, polaire, alors il faut préciser d'ailleurs sur le terme austral, donc c'est sur l'hémisphère sud, boréale pour l'hémisphère nord. Vous les avez rencontrées à quel niveau, Olivier Grunewald ?
Alors, ma première expérience avec les aurores boréales, c'était sur les îles de la Madeleine, enfin au large des îles de la Madeleine au Canada. Mm-hmm. J'étais parti pour voir les bébés phoques. Et on dormait dans une petite cabane qui avait été laissée là. On arrivait en hélicoptère, on dormait dans la cabane au milieu de la banquise. Et en milieu de nuit, je suis sorti. Il y avait les bébés phoques sont très curieux. Donc, il y a un bébé phoque qui m'a vu, qui a commencé à venir. Donc, il s'approchait, il a commencé à monter sur mes bottes. Déjà, c'était saisissant. Je lève la tête, je vois la Comelle Elbop. Donc, c'était en 96. Et je me retourne, il y avait une aurore boréale. Donc, vous pouvez imaginer l'état d'extase, tout ça, un bébé phoque qui se promène. Enfin,
c'était votre première fois. C'est la chance du débutant, ça.
C'était la chance du débutant. Ouais. Et puis après, on a continué. Donc, ce voyage nous a emmenés dans le centre du Canada, donc près de la ville de Churchill, qui est connue pour les ours blancs. Et là, le but, c'était au départ d'aller voir les mères ours qui faisaient sortir pour la première fois les bébés ours blancs de leur tanière. Mais la nuit, évidemment, on était toujours à regarder ce qui se passait. Il faisait des températures entre moins 40 et moins 50, donc ça commence à être un petit peu délicat à gérer. Et là, on a eu des aurores boréales, des choses mais absolument incroyables. Et en fait, pour décrire ce que l'on voit, une aurore boréale peut être aussi bien une espèce de ruban vert à l'horizon qui apparaît, qui reste pendant une heure, qui ne bouge pas, puis qui disparaît. Et on peut avoir la même chose, le ruban vert qui va monter au-dessus de la tête, et un deuxième ruban vert qui apparaît, et puis à un moment, tout ça se met à onduler, à bouger extrêmement vite, avec des espèces de flèches de lumière qui s'allument au milieu, et là, ça peut occuper tout le ciel. Mais c'est vraiment, on rentre dans quelque chose d'assez indescriptible, tellement c'est mouvant, tellement c'est coloré, tellement c'est agité. Et après, pendant ce séjour, on s'est retrouvé sur la rivière Churchill à voir une chose où j'ai même pas fait de photo tellement j'étais, je crois, j'étais pétrifié, où je devais être comme un petit garçon devant le premier sapin de Noël de sa vie. Il n'y avait pas d'aurore active. Et puis brusquement, on a vu quelque chose commencer à bouger en un point du ciel. Et là, on s'est retrouvé dans une pluie de flammes qui allait du rouge au violet, au vert, au jaune, quelque chose d'extrêmement rapide. Et là, on est resté pétrifié et j'ai même pas fait de photo tellement
ça,
c'était saisissant. Quoi. Non, c'était une expérience saisissante. Et là, on est comme ce qu'on voit dans les Game Boy avec les véhicules intersidérales qui se déplacent au milieu de toutes sortes de choses à toute vitesse avec des couleurs partout. C'est aussi aussi sidérant que ça.
Alors, il y a ce courriel de Françoise qui a vu vos photos donc sur le site de La Tête au Carré. Superbe photo. C'est exactement ce que j'avais vu un soir près de Luleå dans le nord de la Suède. J'étais ébloui, très frustré à la fois car j'étais seul dans ma voiture et personne ne pouvait partager cet émerveillement avec moi. J'ai bien vu d'autres aurores boréales par la suite et toujours avec un sentiment de bonheur cosmique. Ça vous parle, Vincent Munier ?
Et complètement, parce que c'est vrai que moi, ma première aurore boréale, c'était... J'avais 18-19 ans, mon premier grand voyage où je partais photographier les grues cendrées en Suède également, donc seul. Et j'avais fait, c'est un peu la même chose que toi Olivier, je faisais un affût pour les grues. Et donc c'est en sortant de mon affût en pleine nuit, parce que bon, il faut que je m'installe le soir et je ressors seulement le matin pour ne pas les déranger. Et pour juste un besoin naturel, j'ai dû quitter mon affût la nuit. Et là, pareil, je suis tombé en admiration devant ces aurores. Et ce qui est assez incroyable pour moi, j'ai vu tellement de photos, je pensais que c'était fixe. Mais là, vraiment, c'était en plein mouvement. Ça bougeait. Donc, je comprends cette auditrice, quand on est seul et quand on est en pleine nuit, perdu au fin fond de la Suède et qu'on aperçoit ça, on a vraiment, il faut que quelqu'un nous pince pour y croire. Quoi. C'est quelque chose de complètement irréel.
Antonio Fischetti.
Moi qui n'en ai jamais vu, je voudrais savoir combien de temps ça dure. Est-ce que c'est éphémère? Est-ce que ça dure plusieurs minutes, plusieurs heures?
Moi, ça a été plusieurs, les premières, en l'occurrence en Suède, c'était plusieurs minutes. Et c'est vraiment, ça bougeait. C'était comme un énorme filament qui n'arrêtait pas de bouger.
Jean-Lille Einstein.
Ça peut durer toute la nuit. La difficulté, c'est que l'axe magnétique de la Terre, le pôle nord magnétique, il n'est pas exactement au pôle nord géographique. Alors, du coup, la Terre, elle tourne un petit peu penchée. L'axe magnétique tourne un petit peu penché comme l'axe d'une toupie. Vous savez, une toupie, elle tourne sur elle-même. Et du coup, quand on est par exemple en Laponie, vers 9h du soir, on rentre dans la zone où se passent les aurores boréales, parce que géographiquement, on commence à rentrer là où magnétiquement ça se produit. Et puis on traverse cette zone qu'on appelle un ovale auroral, et là, ça peut durer toute la nuit. Et puis on le quitte vers 6h du matin et dans la journée. Alors la journée, il faut qu'il fasse complètement nuit. Donc il faut, quand on est en Laponie, que ce soit en hiver, pour qu'il fasse nuit 24 heures sur 24. Mais là, on ne les voit plus parce qu'on a quitté cette zone-là.
Jean-Jacques demande si le rayon vert chez nous fait partie du phénomène aurore boréale. C'est quoi d'abord le rayon vert ?
Le rayon vert, c'est un phénomène optique qui se produit quand l'air est très, 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 très pur, quand le soleil se couche. Il y a une absorption des autres rayonnements du soleil, le rouge, le bleu, etc. Et le rayon vert se distingue, il est très fugitif. Je ne l'ai jamais vu, mais ce n'est pas du tout la même chose. Les aurores boréales sont produites par des particules qui ont été choquées par de l'électricité solaire. Le rayon vert, c'est la lumière du soleil qui a été absorbée, il ne reste plus que le vert.
Alors ces aurores boréales précisément, est-ce qu'on peut les voir en France ou il faut vraiment être au pôle, Olivier Grunewald?
Justement, on peut les voir, je dirais, de manière exceptionnelle, quasiment à toutes les latitudes. Il y a eu une tempête solaire qui a été rapportée en 1859.
C'était terrible d'ailleurs, hein. Oui. J'ai vu des documents là-dessus, apparemment ça a été terrible. Ça a fait sauter tous les systèmes de télégraphie de l'époque.
Tout à fait. Et donc cette série de tempêtes solaires a été tellement importante que des aurores boréales ont été vues jusqu'au Panama. Donc théoriquement, on peut en voir, en cas de très grosse éruption solaire, un peu partout. Mais globalement, on en voit en France, je dirais, par cycle solaire. Donc tous les 11 ans, il y a un cycle solaire. On est en train de rentrer dedans. Ça va durer jusqu'en 2016, la fin du cycle. Et là, si mes souvenirs sont bons, on arrive à en voir en France 4 à 5 fois.
Donc Jean Lillensen, avec l'activité solaire qui était moindre ces derniers temps, on a vu moins d'aurores boréales aussi ?
On en a vu moins, absolument. Ouais. On peut en voir en France statistiquement 2 par an. Mais pour les voir, il faut être là où il n'y a absolument pas de lumière, donc en pleine nuit, tout très très loin de tout éclairage urbain. Il ne faut pas qu'il y ait de lune, il ne faut pas qu'il y ait de nuages, puisque ça se produit au-dessus des nuages. Donc les seuls qui les voient, c'est les astronomes amateurs. Et quand ils en voient, ils les photographient, ils m'envoient des photos. Et quand je peux, je les publie avec leur nom. Voilà.
D'accord.
Mon beau-père m'a raconté en Ardèche en avoir vu une en 1937. Et là, on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait en Ardèche, dans son village. Et les gens avaient dit, oh là là, il se passe quelque chose dans le ciel, il va y avoir la guerre.
Et Patrice nous dit par courriel, j'ai appris il y a quelques temps que depuis le département de la Meuse, on avait pu apercevoir une aurore boréale. Alors quelles seraient les conditions pour que ça se reproduise? Vous les avez expliquées. Est-ce qu'on pourrait pas le prévoir et l'annoncer dans les bulletins météo? Alors vous qui êtes amateur de météorologie spatiale.
Il y a des pays où le service de météorologie gère tout. C'est-à-dire que je prends l'Islande, le cas de l'Islande, le service de météorologie va gérer la météorologie, la sismologie, tous les phénomènes associés. Et si jamais un phénomène lié à une tempête solaire peut arriver, ils vont le signaler. Ce qui se passe, c'est que derrière ces tempêtes solaires que nous, on voit sous l'axe aurore boréale, et c'est ce qui m'a amené à rencontrer Jean il y a une dizaine d'années, il y a toutes les interactions de ces tempêtes solaires avec l'activité humaine. Et si jamais il y a publication d'un bulletin sur un service de météorologie, c'est parce qu'il risque d'y avoir des coupures d'ondes radio, des modifications de positionnement de GPS. Il peut y avoir toute une série d'interactions et ils ne le mentionneront qu'à ce moment-là.
On parlera avec vous des conséquences tout à l'heure. Vincent Munier, des aurores boréales dans le ciel des Vosges, est-ce que vous en avez vu ou pas? Ou ça reste la ligne bleue?
Non,
sans
ça
le
reste
vert
la ligne
de ces aurores.
C'est vrai que... Non, et pourtant j'ai passé de nombreuses nuits pareilles à l'affût de certaines espèces, comme les espèces nocturnes. Et non, j'ai jamais pu observer d'aurores boréales dans les Vosges.
Allez, vous restez tous les trois avec nous. Beaucoup de messages arrivent sur le site, je vous les transmets dans un instant. Et puis Antonio Fischetti va nous faire entendre le son de ces aurores boréales.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Le Grand Nord et les aurores polaires avec mes invités Jean-Lee Lundsten, planétologue, Olivier Grunewald et Vincent Munier, photographe, et Antonio Fischitti qui lui aussi a son mot à dire sur les aurores. Elles ne font pas de bruit d'ailleurs, a priori, Antonio, ces aurores boréales.
Oui, vous avez raison, Mathieu. Une aurore boréale est due à l'interaction des particules du soleil avec l'atmosphère terrestre. C'est donc un phénomène électromagnétique comme une onde radio. Normalement, ça ne fait pas de bruit. Mais on peut la transformer en son à condition de ralentir sa fréquence et ensuite d'envoyer le courant électrique vers un haut-parleur. Alors imaginez que le spectacle visuel d'une aurore boréale soit accompagné de cette bande son.
Voilà, ça c'est une interprétation du son d'une aurore boréale.
Oui.
Alors les aurores ne sont donc pas audibles directement, vous le disiez, mais quels sons peut-on entendre au pôle Nord, Antonio ?
Alors il y a d'abord des sons d'animaux, eux aussi, ils intéressent les scientifiques, comme Isabelle Charrier à l'université d'Orsay. Sa spécialité, c'est la communication sonore des pinnipèdes, par exemple les otaries à fourrure. Elles vivent en colonie et c'est grâce à leur son qu'elles arrivent à se reconnaître les unes les autres. Isabelle Charrier essaie donc de comprendre les règles sonores utilisées par les otaries, par exemple dans ces cris qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne sont pas des cris de torture, mais de retrouvailles entre une maman et son petit.
Voilà, j'entends nos invités qui écoutent attentivement. Vous les reconnaissez, Vincent Munier, les otaries entre elles, là, ou pas ?
Oui, les otaries, oui, j'ai déjà entendu ça en Namibie, mais pas dans le Grand Nord.
Mmh. Ouais. Alors, mais il y en a aussi, effectivement, peut-être, oui. En Namibie aussi, effectivement, oui. Et au pôle Nord, on peut entendre aussi des sons encore plus étranges. Alors, celui-ci est tellement régulier qu'on pourrait croire qu'il est émis par un appareil électronique. Et pourtant, il est émis par un animal, précisément le phoque barbu, ainsi nommé à cause de ses petites moustaches. Alors, on ne sait pas encore pourquoi le phoque émet ce son, qui d'ailleurs est également étudié par l'équipe d'Isabelle Charrier. Pour finir avec les animaux, imaginez que vous êtes au pôle Nord et que vous entendez ça derrière vous.
Alors, Vincent Munier, ça, vous l'avez entendu derrière vous, d'ailleurs, je crois, puisque j'ai même une photo impressionnante qui en est la preuve.
C'est pas évident à définir, là.
Mais ce serait quoi, pour vous ?
Peut-être un ours, non, tout ça.
Oui, oui, voilà, vous avez bien deviné, effectivement, c'est un ours. Alors, mais en Arctique, il y a aussi d'autres petits bruits moins impressionnants, mais qui peuvent être tout aussi dangereux que l'ours, comme celui-là. Alors, ces petits bruits signifient tout simplement que la banquise est en train de craquer sous vos pieds. Et quand elle craque carrément, on peut même avoir l'impression d'entendre une sorte d'orage.
Voilà, ça c'est la banquise.
Oui.
Est-ce que ces bruits de glace ont un intérêt scientifique particulier, Antonio ?
Oui, alors il y a même des chercheurs qui travaillent là-dessus, comme David Marsan à l'Institut des sciences de la Terre de l'Université de Savoie. À partir du signal vibratoire recueilli par des capteurs sismiques sur la glace, il en déduit l'épaisseur de la banquise ou la longueur de la fracture. Et à cause du réchauffement climatique, on risque donc d'entendre de plus en plus les craquements de la banquise et bientôt les bruits de bateaux, malheureusement, et de forages pétroliers. Avant que le pôle Nord ne devienne aussi bruyant que le port de Brest, il est encore possible de l'écouter, par exemple, dans des CD des éditions Schiff-Schaff, d'où sont extraits certains des sons que vous avez entendus aujourd'hui. Et tout cela en référence, évidemment, sur le site de l'émission.
Olivier Grunewald et Vincent Munier, lorsque vous partez pour vos reportages, donc dans ces espaces où, a priori, vous n'allez pas rencontrer grand monde, quels sont les sons, précisément, qui attirent votre attention ou qui vous marquent à ces moments-là, Olivier Grunewald?
Moi, j'aurais tendance à dire que ce qui me marque le plus, surtout quand on chasse les aurores boréales, c'est-à-dire qu'on passe des nuits entières dehors avec des fois plus ou moins de succès, ce qui me marque le plus, je pense, c'est le silence. Mm-hmm. Un silence qui est tellement vide qu'il en devient presque palpable. Et dans ce silence, bah, tous les bruits qu'on émet soi-même, le battement du cœur, surtout quand il y a des aurores spectaculaires, bah, à ce moment-là, on a presque l'impression de s'entendre soi-même. Et c'est vraiment, ça crée une sensation. Alors je comprends cette auditrice qui parlait du fait d'avoir envie de partager. C'est aussi, on est face à des forces tellement importantes qu'on est un petit peu tout seul, dans un grand silence, et ça crée une sensation qui déstabilise la place de l'homme comme maître du monde.
Mmh. Vincent, ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai passé quelques jours, quelques semaines sur l'île de Banks, dans le Grand Nord, et c'était ça. Il y a eu des moments de silence quand je sortais de ma tente. C'était tout à fait impressionnant. Chaque pas, j'avais l'impression qu'il craquait. Donc, je craquais, la glace craquait. J'avais l'impression qu'on entendait ce son à des kilomètres. Et c'était même assez angoissant. Parce que, bien sûr, là-bas, j'avais toujours un peu l'hantise de l'ours. Et je me suis dit, mais c'est incroyable qu'un petit bonhomme, dans ce désert blanc, puisse émettre des sons aussi bruyants, quoi. Et paradoxalement, quand la tempête arrive, c'est tout l'inverse. Où là, on peut hurler tout ce qu'on peut. Et là, on ne nous entend pas à 10-20 mètres. Mmh. Donc c'est vrai que c'est ce que j'aime, c'est un peu ce contraste.
Vincent Munier, Paris Match avait publié un de vos reportages en décembre dernier, avec une double page extrêmement impressionnante de cette ours polaire. Vous pouvez nous en décrire son attitude, parce qu'elle aussi, elle interpelle beaucoup, moi je trouve.
Alors l'ours polaire, oui, c'est vrai que ça reste un animal complètement mythique. Et c'est le, enfin, j'ai souvent beaucoup d'angoisse quand je suis dans le Grand Nord et principalement avec l'ours polaire. Il m'est arrivé d'entendre parfois gratter rien que la toile de ma tente ou les dragons de ma tente et j'étais complètement, sur la plupart du temps, je suis seul, complètement terrorisé. Bon, jusqu'à maintenant, c'était souvent des renards arctiques ou des lièvres arctiques, donc ça se passe plutôt bien. Pour cet ours, là en l'occurrence, j'étais donc à Churchill ou là, parce que je suis vraiment très près.
Alors c'est
là,
ça, à quelle distance elle est prise cette photo? Parce que là, on a l'impression que vous êtes né à nez
avec
lui. Je suis
dans un
lui.
Véhicule justement pour être protégé.
Ouais, il y avait un téléobjectif
et,
ou pas?
Et là, je suis resté, oui, complètement à 600 mm et je suis resté donc la journée. Et donc à cet endroit, les ours attendent la formation de la banquise au mois d'octobre-novembre pour aller chasser le phoque. Donc ils sont complètement affamés. Et cet ours-là, ce gros mâle, était tout simplement en train de lécher ou de gratter des restes de poissons qui étaient dans la glace. Donc il a passé sa journée à essayer de lécher le reste de poissons figés dans la glace. Incroyable.
Elle est assez triste, hein, cette photo.
C'est
hein.
assez.
On sent l'effort de l'animal et son regard un peu perdu. Olivier Grunewald, les questions des auditeurs sur le matériel que vous utilisez précisément pour capter ces aurores boréales. Est-ce qu'il y a des vitesses d'obturation à utiliser pour faire ces photos, demande par exemple Charlie.
Alors, en fait, j'ai recommencé à faire des photos d'aurores boréales cette année, parce qu'en fait, j'en ai fait beaucoup il y a 10 ans, et à l'époque, j'étais avec des pellicules. Donc, c'était un petit peu, on ne savait pas trop où on allait. L'avantage en numérique maintenant, c'est qu'on peut tout de suite savoir le résultat, donc se recaler pour arriver à avoir la bonne exposition. Mmh. Je dirais que le problème des aurores boréales, c'est que ce qui est difficile à apprécier, c'est leur intensité, parce qu'on est la nuit, donc on a une perception de la lumière qui n'est pas du tout la même, qui varie puisqu'il y a une interprétation du cerveau et une ouverture de l'œil qui fait qu'on ne perçoit pas la lumière de la même manière. Je dirais qu'avec les appareils numériques, je crois qu'il faut faire des essais. C'est la chose que je peux conseiller, d'essayer de voir un petit peu comment on arrive à capter le ciel avant que l'aurore démarre, et se dire que en fait l'aurore, il va y avoir deux choses. Soit on veut figer une aurore très dynamique, soit il y a une aurore où on va avoir une bande verte qui va se déplacer dans le ciel. Et à ce moment-là, si on fait une pause longue, on va avoir le début qui va s'imprimer sur le capteur et puis la suite. Et on aura une aurore beaucoup plus longue. Donc des fois, on a un peu il y a ce compromis entre la pause très lente quand les aurores sont dynamiques. Donc là, on est à des temps de pause qui vont être de l'ordre de peut-être 4 ou 5 secondes. Et parfois, on va plutôt opter pour des temps de pause plus longs. Mais à ce moment-là, on modifie un petit peu le côté instantané, la vision, puisqu'on aura une aurore boréale qui paraîtra plus longue, parce qu'on aura imprimé de la lumière pendant plus longtemps. Donc ça, c'est... Donc, je crois qu'il faut vraiment que chacun expérimente. La seule chose, c'est qu'il faut juste penser au froid. Donc le matériel supporte plus ou moins le froid, les batteries aussi. Donc il faut vraiment avoir des batteries de rechange. Et il faut... souvent, il y a du vent, donc il faut un pied assez solide. Il faut sortir le matériel à l'avance.
Orion nous envoie ce message de Rennes. Ce sujet des aurores me donne les larmes aux yeux. Je n'ai vu qu'une aurore boréale dans des conditions peu exceptionnelles. En fait, si on en croit les hôtesses de l'air, en revenant de San Francisco, au-dessus du Groenland, c'était l'année où Mars était particulièrement proche. J'étais à l'affût et à un moment, après un long moment, avec mon nez collé au hublot, j'ai vu ce ruban vert, lointain mais visible. Je rêve d'en revoir à nouveau. Il y a beaucoup de témoignages d'ailleurs. Un Françoise aussi en a vu une depuis la cabine d'un avion à 400 km au sud de Stockholm. Et le pilote lui a dit que c'était très fréquent. Jean-Louis Lundsten, effectivement, on peut en voir assez facilement quand on survole l'épaule.
Oui, on en voit très facilement quand on survole l'épaule. On traverse deux fois ce qu'on appelle l'ovale auroral, la zone, cette couronne d'aurore boréale au-dessus de la Terre. Donc on a effectivement de grandes chances d'en voir.
Pourquoi ce nom d'aurore, demande Benoît. Ah, la colle. La question à laquelle personne n'avait pensé.
Non, effectivement, il y a beaucoup de légendes dans le Nord qui sont... Qui ont rapport avec ces lumières dans le ciel, probablement parce qu'il y a des lumières dans le ciel. Mais toutes les légendes, sauf une, à ma connaissance, sont des légendes très, très effrayantes. Et le mot aurore, il n'est pas si effrayant que ça.
Mmh. C'est effrayant parce que... Northern Lights, ouais. Donc c'est vrai que c'est plus...
Northern Lights.
Ou aurora, c'est très utilisé aussi.
Les légendes sont effrayantes parce que les aurores, pour les voir, il ne faut pas qu'il y ait de nuages, il ne faut pas qu'il y ait de lune. Donc c'est les nuits froides, il faut qu'il fasse nuit. On est très, très près du pôle, il fait très, très froid. Et donc c'est là où les gens meurent de froid. C'est là où la banquise craque et ça fait très, très peur. Donc toutes les légendes sont associées à des choses un peu terrifiantes.
Alex demande s'il y a des aurores boréales sur toutes les planètes du système solaire. Alors, monsieur le planétologue.
Alors, sur Mercure, il n'y a pas d'atmosphère. S'il n'y a qu'électricité du Soleil, il faut une atmosphère. L'électricité du Soleil s'engouffre le long du magnétisme de Mercure et tape dans le sol. Si bien que s'il y en avait, si c'était lumineux, ça allait un tout petit peu, mais pas assez pour nos yeux, on marcherait dessus. Voilà. Sur Vénus, il y a une atmosphère, mais il n'y a pas de champ magnétique, pas d'aurore. On continue la Terre, on en a beaucoup parlé. Sur Mars, il y a eu un champ magnétique qui s'est éteint et il reste là où il y a du fer dans le sol, il reste un petit peu d'aimantation. Et sous l'égide d'un collègue de Meudon qui s'appelle Jean Louberteau, j'ai participé à la découverte des aurores boréales sur Mars. Malheureusement, on ne les voit pas parce qu'elles sont dans un rayonnement qu'on ne voit pas avec nos yeux. Ensuite, on continue, Saturne, Jupiter, comme sur la Terre, des aurores, mais à l'échelle de ces planètes géantes absolument monstrueuses.
Ah oui,
simplement, elles sont dans l'ultraviolet, parce que l'atmosphère est faite essentiellement d'hydrogène, donc on ne le voit pas avec nos yeux, mais avec nos instruments, c'est super beau. Et puis Uranus, Neptune, un petit peu pareil que Jupiter et Saturne, mais le champ magnétique, il pointe vers le Soleil. Si bien que là, le parcours de l'électricité est un peu différent, et la forme et la taille des aurores boréales est très différente aussi.
Allez, on vous retrouve dans un instant, et puis si vous souhaitez voir ces aurores boréales, celles d'Olivier Grunewald, elles sont en photo sur le site de La Tête au Carré pour poursuivre cette émission en notre compagnie franceinter.com. On se retrouve juste après Radiohead, Lotus Flower. Bon après-midi. Slip into a groove and cut.
lundi au vendredi à 14h.
Chaque jour, à tout point de vue, je me sens de mieux en mieux.
Dans la tête au carré.
Chaque jour, à tout point de vue, je me sens de mieux en mieux.
Sur France Inter.
Tu ne pourrais pas comprendre, tu aimes trop les sciences exactes.
Grand Nord et Aurore Boréale, cet après-midi dans le club avec Olivier Grunewald et Vincent Munier, photographe Jean Lilenstein, planétologue, et beaucoup de questions sur le site de l'émission. Fanny demande si les aurores sont prévisibles, autrement dit, combien de temps se passe-t-il entre les éruptions solaires et l'apparition de ces aurores, Jean Lilenstein?
Ce que j'ai vu de plus rapide, c'est 10 heures. En
10
heures, l'électricité est arrivée du soleil et a créé des aurores. En moyenne, c'est plutôt 2 jours et demi. Ce qui est bien, c'est qu'on voit la lumière du soleil, on voit l'éruption avec nos yeux, ça, on les voit 8 minutes après que ce soit arrivé, et donc on a un premier avertissement, il s'est passé quelque chose sur le soleil, ça pourrait arriver d'ici quelques heures.
Alors cette question de Guillaume, je pars en Islande début mai, aurais-je la chance de voir des aurores boréales? Et Anne se dit elle-même, je me suis toujours promis d'aller en voir, pouvez-vous me conseiller un endroit et une fourchette de date précis pour ça? Alors, attention, vous prenez des graves responsabilités là.
L'Islande en mai, c'est trop tard parce que la nuit n'est plus assez sombre. Donc en mai, les chances sont très faibles. Par contre, en fait, le problème, ce n'est pas un problème de lieu, c'est un problème de météo. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui donnent des prévisions d'activité aurorale. Et quand on sait qu'il y a il y a même des sites qui peuvent vous pouvez recevoir sur votre téléphone un avertissement de tempête solaire. Et à ce moment-là, vous savez que vous avez 24 à 48 heures pour trouver le bon lieu où la météo est bonne.
Alors, Jean Lilenstein, sur la météo de l'espace.
Alors, sur la météorologie de l'espace, vous savez, les phénomènes liés à l'activité solaire ont lieu depuis très longtemps. Mais notre société technologique utilise les mêmes vecteurs que le Soleil pour beaucoup de choses. On utilise de l'électricité et des ondes. C'est donc pas étonnant que l'électricité et le rayonnement solaire influencent ou impactent notre vie technologique.
Alors justement, oui.
Ça influence par exemple la corrosion des pipelines, les centrales électriques, les chemins de fer, certains chemins de fer, les télécommunications, et ça c'est très important. C'est important pour le décollage des fusées, les satellites peuvent être
abîmés. Donc c'est-à-dire qu'avant de faire décoller Ariane par exemple, on appelle la météorologie de l'espace pour savoir si des aurores sont
annoncées. Alors pour Ariane c'est facile parce qu'il nous demande de prévoir quand il ne se passera rien, ce qui est beaucoup plus facile que de prévoir quand il se passera quelque chose. On a des problèmes avec les réentrées d'engins spatiaux quand un satellite descend vers la Terre, avec les débris spatiaux dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années à cause de collisions de satellites, avec les forages pétroliers par exemple, beaucoup avec le GPS, on peut perdre quelques mètres de précision. C'est pas grand-chose quelques mètres de précision, sauf si c'est par exemple un missile qui est guidé par GPS.
Mais ça, ce sont des conséquences fréquentes liées aux aurores boréales ou pas?
Oui, ce sont des conséquences fréquentes qui sont liées à l'activité solaire. L'aurore boréale, c'est une des conséquences de l'activité solaire, et c'est pas l'aurore boréale qui crée toutes ces perturbations, c'est d'autres conséquences de l'activité solaire.
Il y a eu des gros pépins d'électricité au Québec, me semble-t-il, dans les années 80, liés aux aurores.
En 89, il y a eu une autre, je sais plus la date, aux États-Unis en 69 ou un truc comme ça, je sais plus la date exacte. Mais il y a eu donc un problème en 89 où le Québec a été plongé dans le noir pendant 9 heures ou quelque chose comme ça. Donc tous les systèmes électriques du barrage de la baie sont disjonctés. Et puis, il y a eu des tas de problèmes sur des satellites. Enfin, ça...
Hydro-Québec, maintenant, a bien compris et s'est bien protégé de ça. Donc, ça ne recommencera pas au Québec, la même chose. Mais par exemple, le 5 avril l'année dernière, il y a un satellite qui s'appelle Galaxy 15 qui est tombé en panne à la suite d'une éruption solaire.
Donc, on arrive quand même à faire des prévisions de plus en plus fiables. Elles sont très demandées, on le voit, et nécessaires.
Ben oui, parce que d'abord, moi, ça m'intéresse essentiellement scientifiquement, mais on a des gros opérateurs qui voudraient ça. Les opérateurs, c'est les compagnies électriques, les compagnies de GPS, les compagnies spatiales, les compagnies touristiques aussi. Et puis, les assurances, et puis l'armée. Alors, pourquoi les assurances? Parce que si on perd, à cause d'une éruption solaire, une constellation de satellites, 15 satellites, eh ben, les assurances, elles ne peuvent pas rembourser. Donc, tous ces opérateurs-là, ils voudraient des prévisions. Alors, je conseille à l'auditeur qui demande quand est-ce qu'il peut voir des aurores, de se connecter sur un site qu'on mettra sur votre site, qui s'appelle le STCE, qui est notre centre européen de météorologie de l'espace qu'on est en train de créer à Bruxelles.
Alors justement, Quentin nous envoie ce message. Il est étudiant en physique à Grenoble et pendant ses études, il a eu l'occasion de voir expérience Planetarella en fonctionnement. Ça, c'est votre expérience, justement. Une manip superbe, dit-il, qui permet la compréhension du fonctionnement des aurores. Ça devrait être un passage obligé pour tous les étudiants de l'UJF. Alors, à quoi ressemble cet instrument ? Dans quelles conditions a-t-il été créé ? Et puis ensuite, on partira en Lorraine avec Vincent Munier.
Merci, Quentin. J'ai eu envie, à la suite d'une expérience qui avait été créée il y a un peu plus d'un siècle par un Norvégien qui s'appelle Birkeland, j'ai eu envie de développer cette manip, de l'améliorer pour pouvoir montrer des aurores boréales aux gens. Et dans cette manip, il y a une enceinte qui ressemble à un gros aquarium à l'envers. Dedans, je fais du vide. Et puis dans cette enceinte, j'ai deux sphères à l'intérieur desquelles j'ai mis des aimants. Et je tire de l'électricité dessus. Et ce qu'on voit, c'est des aurores boréales. Et on voit plus que des aurores boréales. On peut voir l'ovale aurorale dont je parlais tout à l'heure, comme sur une planète, comme si on était des géants devant des planètes. Il faut qu'il fasse complètement noir, alors c'est très très joli. Et puis, on peut voir des couronnes stellaires, comme ce qui se passe autour du Soleil. On peut voir beaucoup, beaucoup de phénomènes spatiaux qui se passent entre une planète et une étoile.
Vous créez des aurores boréales en laboratoire.
Voilà, je crée des aurores boréales que je montre
au public. On peut les voir ou pas ? C'est ouvert au public ou il faut vraiment être coopté ?
Il y a des copies. Il y a des copies parce que je donne les plans et j'aide les gens à en monter quand c'est évidemment pour le public, pour des musées. Par exemple, le Palais de la Découverte à Paris va en faire une.
Oui.
À Meudon, j'ai des collègues qui en ont fait et qui les montrent beaucoup autour de Paris. Il y en a une à Toulouse maintenant, et il y en aura bientôt une à la Cité de l'Espace à Toulouse. Il y en a une qui vient d'être terminée à Londres, il va y en avoir à Berne, à Bruxelles, à Madrid. Donc, de plus en plus, des gens peuvent voir des aurores boréales grâce à cette manip.
Je crois qu'on vous a même proposé de déposer un brevet que vous avez refusé. Hein.
Oui, j'ai refusé, ouais, parce que je considère que je suis payé par le public et je ne vois pas pourquoi je devrais faire de l'argent avec des choses. Enfin, c'est dans le cadre de mon travail. Quoi.
Belle
Donc ça
initiative,
doit être rendu au public.
Ben écoutez, bravo. Olivier Grunewald, vous avez vu ces aurores boréales en boîte, hein, en somme.
Je les ai vues.
Alors,
en boîte,
qu'est-ce que ça fait comme impression par rapport à celles qu'on voit en grand ?
Alors, j'avais déjà eu l'occasion de voir marcher à Tromsø l'expérience de Birkeland qui avait été faite, je crois que c'était 1917, si je me rappelle bien la date.
La première, c'était 1899.
Enfin, j'ai revu avec les boules d'origine, etc. Donc, c'était assez fascinant. Et puis, de revoir la manip où, tel le docteur Mabuse, Jean est en train de... Alors, tu la veux comment, ton aurore boréale ? Tu la veux plutôt arrondie, plutôt... Enfin, c'est assez, assez passionnant de voir ça. Et c'est effectivement, c'est magnifique, quoi. En plus, on voit des choses qu'on ne voit pas dans la nature parce qu'on n'est jamais dans un vaisseau spatial à quelques milliers de kilomètres de la Terre pour voir cette couronne aurorale complète. Quoi.
Vincent Munier, dans ce livre, Au fil des songes, pas d'aurore boréale, hein, puisqu'on le disait, vous n'en avez pas vu dans votre région natale, les Vosges. Et c'est bien autour de votre région que vous avez photographié.
C'est vrai que moi, je suis ravi parce que j'apprends beaucoup de choses. Là, comme le titre l'indique, Au fil des songes, moi, je suis vraiment un grand rêveur.
Oui.
Et ces phénomènes, je les vis, que ce soit les aurores ou les parhélies en Arctique ou les tempêtes, mais je les vis en tant que, voilà, que photographe grand rêveur et je ne rentre pas du tout dans le côté technique et scientifique. Là, j'ai appris beaucoup de choses.
On s'attend à voir sortir d'ailleurs des lutins ou des fées de votre forêt vosgienne quand on regarde les photos dans ce livre.
Oui, c'est vrai que j'ai mis l'accent sur le côté un peu peut-être onirique et c'est ce qui me plaît. J'aime beaucoup voyager, aller dans le Grand Nord parce que je suis vraiment attiré par le Grand Nord, mais j'aime aussi revenir dans ma Lorraine, dans mes Vosges natales et essayer de les mettre en avant, de les magnifier et de poser le regard un peu de manière différente en accent un petit peu sur le côté mystérieux, le côté un petit peu... je suis un grand fan des brumes, comme vous avez pu le voir.
Absolument.
Et puis des choses un peu, dans la suggestion, de ne pas montrer vraiment l'animal de manière directe.
Cobalan, donc ça c'est l'éditeur de votre livre, livre donc de photos, avec des textes de Charles-Élie Couture, un autre Lorrain, et puis Michel Munier, c'est votre père.
Oui, tout à fait, oui, mon père qui est... j'ai eu beaucoup de chance, mon parcours est un peu... Et comment dire, il a été orienté grâce à son éducation. Il est naturaliste et il m'a tout de suite mis un peu le pied à l'étrier, donné un boîtier dans les mains à l'âge de 12 ans.
Ouais.
Donc j'ai vite quitté les bancs de l'école pour vivre dans la nature, dans les Vosges, en Lorraine spécialement, et puis après dans le Grand Nord. Et donc là, je suis ravi de co-signer ce livre avec lui, parce qu'il m'apprend toujours, c'est un peu mon mentor. Et puis Charles-Élie, c'était aussi une très belle rencontre. Il a quitté la Lorraine il y a 8 ans pour New York, mais il est très attaché quand même à sa terre natale et il était ravi de poser poser quelques mots sur nos images.
Ouais. Alors, comment vous avez travaillé? Quelle est l'histoire au fond de ces photos? Est-ce que vous racontez quelque chose de bout en bout ou c'est vraiment,
c'est vraiment un voyage,
des points de vue que vous proposez?
C'est vraiment un voyage sur différents milieux de la Lorraine. Donc, on est sur, autant sur la rivière Moselle, par exemple, qui est très sauvage. Il y a des endroits où c'est très, très joli. Il y a d'autres endroits comme des pelouses calcaires, quelques forêts primaires, des tourbières. On a essayé de mettre l'accent sur des réserves qui sont gérées par le Conservatoire des sites lorrains et puis la région. Et c'était un petit peu le but de montrer la diversité de nos milieux dans cette région avec un regard un petit peu décalé.
Quel est l'état de la forêt d'ailleurs après la tempête de
1999?
Oui, déjà. Oui.
Eh bien, c'est plutôt... alors, moi, je ne vais pas parler d'un côté production, mais c'est plutôt bon pour la nature. C'est vrai que ça
a
été...
Parce que c'était une catastrophe à l'époque.
Économiquement,
les forêts autour de Nancy, forêts de haies, dans les Vosges, c'était la même chose. Tout était absolument à plat.
Tout à fait. Mais d'une manière, on va dire, naturaliste, c'est vrai que ça a permis de développer une certaine biodiversité. Les Vosges, c'est des forêts souvent très fermées. Hein. Quand les fermiers ont quitté, donc ils sont partis en ville, ils ont replanté en épicéa, et c'était vraiment des forêts très dense et un peu presque des déserts écologiques. Et la tempête 99 a un peu ouvert ces milieux et favorisé l'apparition de nouvelles espèces et également des insectes aussi beaucoup.
On croise des lynx dans les Vosges?
Oui, le lynx...
Il y en a un dans votre livre. Hein.
Tout à fait.
Très impressionnant d'ailleurs.
Alors vous savez que le lynx, c'est mon père qui l'a photographié. Moi je suis arrivé quelques heures trop tard. On a passé pas mal de nuits l'an passé, au mois de mars, c'est le rut du lynx. Et je l'ai entendu seulement, je l'ai senti un petit peu. Il est passé à quelques mètres de moi en pleine nuit, mais je l'ai encore jamais vu. Là, c'est mon père qui a fixé cette silhouette.
C'est un regret pour vous?
Oui, complètement. C'est un regret, mais non. La nature, ça nous apprend à être patient et le jour viendra.
Ouais.
Mais ça reste un félin qui est en effet mythique, qui est malheureusement assez un peu mal compris. Il y a encore quelques chasseurs qui ont du mal à, pas tous, hein, mais certains, qui le considèrent toujours comme un concurrent. Et ça, c'est un peu le problème. Et dans les Vosges, la situation devient critique. Donc, il faut vraiment communiquer pour tenter de le protéger.
Voilà. En tout cas, c'est bien. On a le témoignage de sa présence, au moins au travers de ce livre, avec des clichés vraiment exceptionnels. C'est magnifique. Hein, vous avez fait un travail absolument parfait, très beau, très émouvant, donc avec tout un tas de photos sur cette région qui est la vôtre. Au fil des songes, Michel et Vincent Munier, avec donc les textes de Charlie Couture, c'est aux éditions Cobalan. Jean Lilenstein, vous avez vous aussi des livres. C'est Le système solaire revisité, chez Erol, avec un collectif d'auteurs et de scientifiques.
Oui, c'était une réalisation collective de mon laboratoire que j'avais piloté.
Et sous les feux du soleil, vers une météorologie de l'espace, avec Jean Bornarel chez EDP Sciences, pour découvrir cette discipline qui est la météorologie de l'espace, qui vous intéresse tant également, Olivier Grunewald. Ça fait d'ailleurs assez peu de temps qu'on parle de cette discipline.
Moi, j'ai entendu parler de cette discipline il y a donc une dizaine d'années, parce qu'effectivement, derrière les aurores boréales, pour moi, de montrer des beaux phénomènes, c'était une chose, mais c'était important de le raccorder à quelque chose. Et c'est là que justement j'ai découvert la météorologie spatiale et que tous les matins je suis connecté sur les sites de météorologie spatiale pour savoir ce qui va se passer.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, et les photos à voir sur le site de La Tête au Carré.